le dernier chapitre, c'est-à-dire l'histoire des missions au XXe siècle. Il restait un point à voir, c'était les églises d'Orient. Ça devait servir de transition entre justement les églises d'Occident et puis les églises du tiers-monde, c'est-à-dire justement les missions. J'ai considérablement étoffé ce chapitre à la suite des travaux de Mme Dittmann, les derniers travaux que j'ai reçus. Et donc, ce que je vais dire là doit beaucoup à son dernier livre, là, justement, qui n'existe malheureusement qu'en anglais. Bien, le problème des églises orientales, c'est que c'était des églises qui étaient sous l'islam, donc qui étaient des églises d'Imi. Et au XIXe siècle, on a assisté, notamment dans les Balkans, à une révolte des Dhimmi. Ça a été d'abord la Grèce, et l'on sait tout ce que la Grèce, la révolte grecque, a provoqué, n'est-ce pas, de sentiments positifs de la part des Occidentaux, Lord Byron qui est allé mourir là-bas en faisant le coup de feu, n'est-ce pas, Victor Hugo, d'autres qui ont pris fait et cause pour la Grèce en révolte. Or, le moteur de la révolte grecque, c'était l'Église orthodoxe. C'est l'Église orthodoxe qui a maintenu vivante pendant les siècles la flamme, si vous voulez, de... Pardon ? On avait fait ça la dernière fois ? Ah bon ? Alors, je passe beaucoup plus vite alors, sur ce point-là. Oui, mais ça, c'était... On avait vu ça, justement, la libération des églises d'Imi et tout ça. Bon, le Liban, le mandat français au Liban, on avait vu ça. Bon, disons que tous les Balkans se libèrent et ça donne aussi des idées aux chrétiens qui sont alors dans le Moyen-Orient, précisément, et notamment au Liban. Le Liban, qui est un État où les chrétiens se sont toujours réfugiés au long des siècles, quand ils ont été persécutés par les musulmans, ils se sont réfugiés au Liban pour une bonne et simple raison, c'est que le Liban est un pays montagneux, l'Hermon culmine à près de 3000 mètres, et par conséquent, il est d'un accès extrêmement difficile, et c'était donc un lieu de refuge tout à fait naturel. Et le Liban, dès le XIXe siècle, était une mosaïque d'ethnies diverses, de religions, de dénominations, chrétiennes ou non, parce qu'on trouvait aussi au milieu des Druzes, qui étaient des minorités d'origine islamique persécutées, des Ismaéliens et des gens comme ça. Les chiites, dont on parle tant aujourd'hui aussi, n'ont pas été là-bas. Donc c'était un État qui était très, très instable aussi à cause de cela. Et donc le Liban a connu à ce moment-là une guerre civile dès le XIXe siècle, et notamment ce qu'on appelle la révolte des Druzes, qui ont essayé de massacrer les chrétiens. Et à ce moment-là, les Français ont envoyé une escadre navale, un corps expéditionnaire à bord des navires, qui sont venus sauver les chrétiens du Liban. Et pour cet acte, les chrétiens libanais, jusqu'à aujourd'hui, sont éternellement reconnaissants à la France. Et quand vous dites à un Libanais que vous êtes français, un Libanais maronite, c'est-à-dire chrétien, alors c'est tout juste s'il ne vous saute pas au cou. Hein. Et donc, c'était aussi le message que les Libanais expulsés de la zone de sécurité qu'on avait rencontrée il y a 2 ans nous avaient dit, eh bien, vous direz aux Français que s'ils nous ont oubliés, nous, on ne les oubliera jamais. C'était à peu près ça. Donc, les Français aussi imposent au Liban des capitulations, c'est-à-dire justement qu'ils se font reconnaître comme protecteurs des minorités chrétiennes du Liban. Et c'est la raison pour laquelle, au lendemain de la Première Guerre mondiale, selon les accords Sykes-Picot, la France reçoit le mandat sur le Levant, c'est-à-dire sur le Liban et la Syrie. Et là, donc, un choix s'impose pour les Libanais, finalement. Entre ce qu'on appelle un petit Liban, c'est-à-dire un Liban qui serait composé essentiellement de chrétiens, et qui aurait donc une certaine homogénéité, mais évidemment sur un territoire restreint, ou alors le Grand Liban, c'est-à-dire le Grand Liban, c'est quoi ? C'est la taille de la Bretagne, à peine, quoi. Mais enfin, le Grand Liban, c'est-à-dire qu'il intégrerait la vallée de la Bekaa et le Djebel Druze et toutes ces régions qui sont peuplées par des musulmans. Finalement, un compromis est engagé et il est décidé de risquer l'affaire du Grand Liban. Et donc, aussi longtemps que les Français sont sur place entre les deux guerres, bon, ils arrivent à maintenir à peu près la balance entre les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens, essentiellement maronites, donc, c'est-à-dire partisans catholiques, ce sont des catholiques rattachés à Rome, mais partisans du rite qui a été fondé, un rite oriental qui a été fondé par leur patron, Saint Maron, dont le nom de maronite qu'on leur donne. Les maronites et les chrétiens, donc, d'une manière générale, toutes tendances confondues, sont légèrement en minorité par rapport aux musulmans. Là-dessus éclate la Deuxième Guerre mondiale. Bon, le Levant passe sous le régime de Vichy, qui maintient le protectorat. Maintenant, le protectorat, qui avait été confié à la France en 1922 au traité du Trianon, avait aussi stipulé que le but, c'était de conduire ces pays-là, la Syrie et le Liban, à l'indépendance. Et c'est alors que, dans le conflit qui oppose à cette époque-là la France de Vichy et la France libre du général de Gaulle, le général de Gaulle décide de prendre de vitesse ses adversaires vichysois, qui sont évidemment au Levant. Et c'est là qu'il a sa fameuse phrase, vous savez, qu'on trouve dans ses mémoires, « Je volais vers l'Orient compliqué avec des idées simples ». Ça, c'est de Gaulle, n'est-ce pas ? Il envoie donc un de ses adjoints, le général Catroux, à Beyrouth pour négocier l'indépendance du Liban, pour empêcher, donc, si vous voulez, que Vichy ne rétablisse son hégémonie sur le Liban. Le but, c'est donc de précipiter l'indépendance, donc aussi de la Syrie, mais la Syrie à cette époque-là est sous la domination d'un pouvoir beaucoup plus fort de la part de Vichy, mais le Liban tombe comme un fruit mûr, et de fait, le général de Gaulle, quand il vole vers l'Orient compliqué avec des idées simples, arrive à Beyrouth et proclame l'indépendance du Liban. Cette indépendance, elle est basée sur ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui le pacte national. Le pacte national libanais est basé sur un subtil équilibre des pouvoirs. Cet équilibre des pouvoirs, qui donc prend en compte le fait que les chrétiens sont légèrement plus nombreux que les musulmans, veut, dans une constitution non écrite, il n'y a jamais eu de texte pour cela, mais que le président de la République soit toujours un chrétien maronite. Le premier ministre est toujours un musulman sunnite. Alors ensuite, j'ai oublié, le ministre de l'Intérieur, un musulman chiite, bon, etc. Il y a tout un ensemble de pouvoirs très, très subtils et très délicats qui ont été donc concoctés par le général de Gaulle pour essayer de maintenir justement un État en quelque sorte binational au Levant, qui serait évidemment pro-français, dans la mesure où justement à cause de l'expédition du 19e siècle, du Djebel Druze, les maronites étaient à fond pour la France, de Gaulle était à peu près certain d'avoir réussi son coup. Et ce pacte national a fonctionné tant bien que mal. Tant bien que mal, je dis, parce qu'il y a eu parfois des alertes jusqu'en 1975. Des alertes, et il y en a eu une fameuse en 1958, lorsque justement les musulmans, soutenu par Gamal Abdel Nasser, c'était 2 ans après l'expédition israélienne des franco-britanniques en Égypte, n'est-ce pas, ont essayé de renverser le président Chamoun. Et le président Chamoun, donc chrétien maronite, a fait appel aux Marines américains, et dans les jours qui ont suivi, les heures qui ont suivi, les Marines ont débarqué au Liban pour protéger le régime du président Chamoun. Dans le même temps, une même tentative de déstabilisation avait lieu en Jordanie voisine, et les parachutistes anglais, donc, puisque la Jordanie à cette époque-là était dans la mouvance britannique, les parachutistes britanniques ont sauté sur Amman pour protéger le roi Hussein. Donc, si vous voulez, il y a eu des alertes, mais tout a basculé en 1975. 1975, vous pourrez peut-être même remonter un peu plus tôt, à 1970, Septembre Noir. Septembre Noir, les Palestiniens, qui constituent l'essentiel de la population de la Jordanie, tentent de renverser le roi Hussein, sous la direction d'Arafat d'ailleurs. Comme disait l'Évangile, voyez comme il s'aime. Et bon, Hussein fait écraser donc, les camps de réfugiés palestiniens qui sont en Jordanie. C'est un pilonnage, c'est un massacre épouvantable, dont personne ne se plaint d'ailleurs, n'est-ce pas ? Il n'y aura pas de grands défilés, il n'y aura pas de grandes interventions à la radio, n'est-ce pas ? Que les Arabes s'égorgent entre eux, c'est dans la logique des choses, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Du moment que ce n'est pas Israël qui le fait, on peut les laisser tranquillement s'amuser gentiment à s'entretuer. Et donc, les survivants sont expulsés de Jordanie à la fin de septembre noir, c'est-à-dire à partir de 1971. Et tout naturellement, ils vont s'installer au Liban voisin, au Liban qui est un État faible. Il y a cette petite blague qu'on disait en 1967, au moment de la guerre des six jours, en Israël, pourquoi le Liban n'est-il pas intervenu dans le conflit aux côtés des pays arabes ? Parce que ce jour-là, son pilote était malade. Bon, son unique pilote, quoi. Enfin, bon, c'était un peu caricatural. Mais enfin, c'est pour dire que le Liban était un État faible, quoi. Et donc, en l'espace de quelques mois, l'équilibre démographique sur lequel était basé le pacte national a basculé. Les musulmans, grâce à l'arrivée des Palestiniens, eh bien, sont devenus les plus nombreux. Et en 1975, ils ont pris conscience de leur force. Et donc, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire en Jordanie, ils ont essayé de faire, a éclaté donc une horrible guerre civile qui a duré une dizaine d'années, qui a fait des milliers de morts, des dizaines, des centaines de milliers de morts, ça, d'un côté comme de l'autre, dans la plus grande indifférence internationale, ça, et qui s'est achevée lorsque la Syrie, qui avait toujours rêvé d'annexer le Liban, est intervenue. Au moment de la guerre du Golfe, n'est-ce pas, les Américains lui ont donné la possibilité d'occuper le Liban contre non seulement sa neutralité, mais sa participation à la guerre du Golfe. Alors, d'un côté, on faisait la guerre pour libérer le Koweït qui avait été agressé par l'Irak, et d'un autre côté, on livrait un pays sans défense, un pays qui n'avait pour lui de n'avoir pas une seule goutte de pétrole, on le livrait entre les mains d'un des plus sanguinaires tyrans qui ait jamais vécu, qui était justement Hafez el-Assad. Bon, passons, c'est la géopolitique. Et donc, depuis ce temps-là, donc, le modèle libanais s'est effondré. Le modèle libanais qui avait fonctionné, que la propagande présentée comme la Suisse du Moyen-Orient, l'exemple qu'il faudrait qu'Israël imite, un État binational, etc. Bon, ben, on voit ce qu'il en est, quoi. Actuellement, les chrétiens sont les underdogs, c'est-à-dire les dhimmis, n'est-ce pas ? Ils ont retrouvé l'état de dhimmitude, du moins ceux qui sont restés. La plupart y ont fui en Europe, aux États-Unis, surtout aux États-Unis, en Australie, etc., au Canada. Donc, voilà. Maintenant, il y a aussi l'Égypte copte. L'Égypte copte, qui, elle, est une réalité qui est absolument sous-estimé au point de vue numérique, de telle sorte qu'on prétend que les Coptes ne seraient que 3 ou 4 millions. Ils sont au moins le double. Et la réalité est certainement beaucoup plus proche de 7 millions de Coptes que de 2 ou 3 millions. Les musulmans volontairement trafiquent les chiffres justement pour ne pas montrer que les Coptes sont aussi importants et aussi nombreux. Maintenant, ce qui est une des caractéristiques de la Dima, ces églises orientales, qui, donc, depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire depuis la conquête islamique au 7e siècle, sont des églises dhimmi, eh bien, ont avec le pouvoir des relations tout à fait spéciales. Et il faut que nous les comprenions, parce que justement, nous sommes en train, nous aussi, et ces jours derniers, jusque dans la Fédération protestante, je vois ce poison s'infiltrer, nous sommes en train de devenir des églises dhimmi. Le pouvoir musulman avait cette tactique de diviser pour régner qui faisait que les patriarches, les dignitaires des églises orientales étaient choyés par le pouvoir musulman. Mais ce régime de faveur dont jouissaient ces gens-là s'accompagnait de la persécution du peuple. Et dans la mesure où justement les dignitaires étaient choyés, ils auraient eu mauvaise grâce à protester contre la persécution du peuple. D'ailleurs, s'ils l'avaient fait, il est évident qu'ils auraient perdu leurs privilèges. Si bien que les dhimmis, les églises dhimmis d'Orient, sauf les Coptes, ont vécu depuis les origines de l'islam dans un mensonge permanent. et un mensonge que les Occidentaux sont en train d'avaler. À savoir, comme le disait tout à l'heure le texte que tu lisais, David, que l'islam est tolérant. Alors, justement, parlons de la tolérance arabe. Pour les dhimmis, qu'est-ce que c'est ? Le dhimmi n'a aucun droit. Seuls les musulmans ont des droits. Le dhimmi n'a aucun droit. Quand je dis aucun droit, ça veut dire qu'il n'a même pas le droit à la vie. Et pour pouvoir vivre au milieu des Arabes, au milieu du monde arabe, il doit racheter à prix d'argent, chaque année, son droit à la vie. Mais non seulement il doit payer à prix d'argent ce droit, d'ailleurs, c'était parfois tellement exorbitant, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Jazira, un truc comme ça, je crois, c'est ce qui explique, par exemple, que beaucoup de Juifs ont fui Israël pendant cette période-là, parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer. Et les chrétiens aussi, d'ailleurs. Beaucoup se sont convertis à l'islam parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer non plus. C'était souvent un moyen de pression formidable. Tant le montant de cet impôt était exorbitant. Alors, il y avait donc cet impôt, mais il y avait également, alors il y avait plus de deux impôts annexes. Par exemple, à chaque anniversaire d'un des dirigeants, les dhimmis devaient faire un cadeau. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, un cadeau, ça voulait dire un impôt supplémentaire pour l'anniversaire du dirigeant. À chaque fête musulmane, il fallait aussi un cadeau correspondant. Enfin bref, il y avait, disons que le dhimmi était taillable et corvéable à merci, pour reprendre l'expression du Moyen-Âge. Et bien sûr, le dhimmi, il n'était pas question qu'il se révolte. S'il se révoltait, il perdait son droit à être toléré. Il perdait son droit à la protection. Alors, quand on parle de protection musulmane, c'est, vous savez, comme des racketteurs protègent des barlouches contre eux-mêmes à condition qu'ils leur payent une espèce de tribut à racket, quoi, c'est le racket. Et finalement, l'islam s'est comporté vis-à-vis des dhimmis, dans tout notre histoire, comme de véritables racketteurs. C'est ça la tolérance arabe. C'est ça la manière libérale de se comporter de l'islam. Alors, vous comprenez, là, c'est la langue de bois, on joue sur les mots. On dit l'islam est tolérant. Ben oui, mais que ça veut dire la tolérance ? Est-ce que, justement, nos modernes dhimmis, les Clermont et autres consorts, sont prêts à vivre sous la direction de l'islam, ce type de tolérance-là ? Et bon, alors, les dhimmis n'ont pas le droit de se révolter, ils n'ont même pas le droit de mal parler de leur bourreau. Ils n'ont pas le droit de se plaindre de leur bourreau. Au contraire, ils doivent les encenser. Et c'est la raison pour laquelle les églises orientales actuellement, notamment les églises palestiniennes qui sont persécutées, n'arrêtent pas de chanter les louanges d'Arafat. Alors Arafat joue exactement sur les mêmes registres que l'avaient fait ses prédécesseurs. Ça veut dire que les dignitaires chrétiens comme Sabah, comme Aman Ashraoui, ou bien Raymond Attaouil, qui est sa belle-mère, ont un régime de choix, n'est-ce pas ? De telle manière qu'ils ne vont pas intervenir. Mais au niveau du peuple, c'est des vexations, des persécutions perpétuelles. Les couvents sont attaqués, les nonnes violées, les statues cassées dans les monastères et les églises, etc. Bon, ça, personne n'en parle, parce qu'il ne faut surtout pas en parler, parce que si on en parlait, les chrétiens orientaux supplient les occidentaux surtout de ne pas en parler, parce que ça se retournerait contre eux. Alors voilà, ça c'est une des situations de ces églises-là. Les dhimmis sont réduits à l'état de sous-homme. Le dhimmi est un citoyen de seconde zone, n'importe comment. Et finalement, ce sont les églises orientales qui ont diffusé l'antisémitisme en Occident comme négation de la dhimmitude. Et aujourd'hui, on a une nouvelle forme de théologie de la substitution qui naît au travers de ce qu'on appelle le palestinisme, la théologie palestinienne, qui prend exemple sur la théologie de la libération. Pardon. Qu'on trouvait avec des théologiens d'Amérique du Sud tels que Leonardo Boff, du temps de glorieux du marxisme et de Che Guevara, etc. Eh bien, maintenant, nous avons deux théologiens de ce palestinisme qui sont El Khoury et l'évêque anglican de Jérusalem, Attik. Ce fameux El Khoury a écrit un livre qui s'appelle l'intifada du ciel et de la terre. Et Attic a écrit d'autres ouvrages aussi sur la théologie palestinienne. Alors, que dit cette théologie palestinienne? C'est une nouvelle forme de théologie de la substitution. De la même manière qu'on avait imaginé en Occident que l'Église remplaçait Israël, eh bien, de la même manière, maintenant, on n'a pas réussi à détruire Israël par ce moyen-là, mais par contre, on a créé de toutes pièces, pour les besoins de la cause, et ça, c'est aussi une création de l'Occident, un peuple palestinien qui n'a jamais existé jusqu'alors, n'est-ce pas, et qui est, en quelque sorte, le nouveau peuple élu. D'abord parce qu'il vit sur la terre biblique, la terre de la révélation. Deuxièmement, parce que comme le peuple juif, il est persécuté, comme Jésus, il est crucifié. Et l'on voyait en 1969, lors de la conférence des chrétiens pour la Palestine à Beyrouth, dans laquelle l'abbé Pierre et Roger Garoudi ont joué un rôle important, caricature représentant une jeune femme crucifiée sur une croix gammée, et en dessous, c'était marqué la Palestine. Voilà, donc crucifié évidemment par les horribles Israéliens. Donc, le peuple palestinien est le nouveau peuple élu, est le nouvel Israël. On réécrit l'histoire en fonction de lui, sans d'ailleurs reculer devant le ridicule, quoi, hein, parce que le ridicule ne tue pas, c'est bien dommage. On serait débarrassé de bien des gens douteux, si c'était le cas. Et par exemple, l'autorité palestinienne, dans un ouvrage historique, enfin historique entre guillemets, qu'elle distribue aux journalistes, précise qu'entre autres, Jérusalem a été conquise en 90 avant Jésus-Christ par les Arabes chrétiens. Bon, sans rire, il y a des journalistes occidentaux qui ont repris ça sans sourciller, sans même se rendre compte que, bon, enfin voilà quoi. Alors, voilà, donc si vous voulez, les chrétiens d'Orient, par crainte de la menace qui repose sur eux et qui est permanente, les chrétiens d'Orient, il faut le dire à leur décharge, vivent dans une terreur quotidienne. Parce qu'encore une fois, ils n'ont aucun droit. Et du jour au lendemain, n'est-ce pas, ils peuvent être victimes de pogroms sans avoir la possibilité même de résister. S'ils résistent, c'est du terrorisme. Et c'est pourquoi Israël est un État terroriste, parce qu'il ose résister à ses bourreaux. Il ose résister à l'islam. Et les chrétiens d'Orient, maintenant, reprochent aux Occidentaux d'être la cause de leur malheur, parce qu'ils ont osé résister aux Arabes à Poitiers, les arrêter à Poitiers, parce que les Espagnols ont osé lancer la Reconquista, parce que Charlemagne est allé combattre à Roncevaux, parce que les Polonais ont arrêté les Ottomans aux portes de Vienne, etc. Il aurait fallu se soumettre. Et la théologie palestinienne de ces deux personnages que j'évoquais il y a un instant affirme que la vocation du christianisme, et particulièrement du christianisme oriental, mais du christianisme en général, c'est d'aimer d'une manière inconditionnelle les musulmans et de se faire leur serviteur sans rien attendre en retour. Bon, c'est la plus belle expression de la dimitude. Et ça se base sur une vision complètement erronée de l'Évangile. Serviteur de tous, oui, je me suis fait le serviteur de tous, dira l'apôtre Paul, mais ce n'est pas inconditionnel. Et là, c'est une marque de faiblesse, parce qu'il n'est pas question de convertir un seul musulman à Jésus-Christ. Celui qui ferait cela mérite la mort, à la fois celui qui s'est converti et à la fois celui qui l'a converti. Alors, les chrétiens d'Orient ont toujours refusé le traitement qui pourrait les sauver, et pour essayer justement de, quelque sorte, trouver un espace de liberté relative, disons. Ils ont essayé de faire porter sur Israël la responsabilité de leur malheur. Et ça continue comme ça encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi actuellement notre brave Clermont et notre Fédération protestante tombent à pieds joints dans ce panneau-là, parce que justement, ce sont les chrétiens d'Orient qui sont en train de fomenter, évidemment, sur ordre de leur maître musulman, une campagne dans ce sens en direction des églises d'Occident. Donc, les chrétiens d'Imi, cherche à se protéger des musulmans en attaquant Israël, en attaquant les juifs. D'ailleurs, les musulmans s'efforcent de maintenir l'ennemi, les chrétiens, dans la plus stricte ignorance. L'intelligence est toujours mauvaise. Hein. Et les chrétiens avaient des restrictions quant à leurs écoles, les chrétiens et les juifs, parce que chrétiens et juifs, pour l'islam, c'est un tout. Et là, justement, c'est une idée absolument erronée de penser que nous allons pouvoir nous sauver, nous allons pouvoir nous réconcilier avec l'islam sur le dos d'Israël. Ça, c'est l'erreur de Chirac, c'est l'erreur de Védrine, c'est l'erreur de Jospin, c'est l'erreur de tous les dhimmis qui nous gouvernent, n'est-ce pas ? Nous allons pouvoir nous sauver en sacrifiant Israël aux Arabes. Mais on oublie justement que les Arabes n'arrêtent pas de chanter, nous combattrons le samedi, puis nous combattrons le dimanche. Pour eux, n'est-ce pas ? Il y a, qu'on le veuille ou non, entre chrétiens et juifs, une communauté de destin à laquelle il est impossible d'échapper, quand bien même on le voudrait. Si on croit pouvoir y échapper, on se trompe. On s'abuse tout simplement, on ne connaît pas l'islam. Donc le dhimmi n'a pas le droit de s'exprimer non plus, librement. Et sa condition est d'une extrême fragilité. La légitime défense est une agression. C'est pourquoi les Arabes n'arrêtent pas de dire qu'ils n'ont jamais cessé de combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est d'oser résister contre eux. Or, Israël est un État terroriste parce qu'il est le seul État qui a osé résister et qui ose encore le faire. Donc, Israël est un État terroriste. Et par contre, le terrorisme, qui est le terrorisme arabe, n'est pas un terrorisme, c'est une action légitime. Et vous avez des imbéciles en Occident qui annoncent ça, qui répètent ça, sans même se rendre compte, c'est pas qu'ils sont en train, eux aussi, de couper des bâtons pour se faire battre. Les chrétiens d'Orient sont les meilleurs apologistes du système qui les détruit. Et l'Église palestinienne devient le virus Israël, le véritable Israël. Et alors aussi, on a le même phénomène en Occident. L'Occident a vécu dans la terreur de l'islam pendant toute la fin du Moyen-Âge. Pendant toute la fin du Moyen-Âge. Et vous savez qu'une des plus... Une des choses les plus redoutées par les chrétiens, c'était les raids des pillards barbaresques qui écumaient les côtes des pays dits chrétiens, n'est-ce pas, qui enlevaient notamment les enfants, les jeunes garçons, pour en faire des janissaires. Et quand il y avait comme ça des revers, eh bien les chrétiens se vengeaient en attaquant les juifs. Ils se vengeaient des musulmans en attaquant les juifs. Et ça, ça a toujours été vrai dans l'histoire. C'est comme ça que, dans la deuxième partie du Moyen-Âge, l'antisémitisme populaire qui n'existait pas, qui n'existait que chez les clercs pendant le premier millénaire, n'est-ce pas ? L'antisémitisme populaire a éclaté sous la pression justement de l'islam. Il y avait une espèce de jeu diabolique triangulaire, n'est-ce pas ? Où quand les chrétiens attaquaient, quand les musulmans attaquaient les chrétiens, eh bien les chrétiens se vengeaient du mal que leur faisaient subir les musulmans en attaquant les juifs. Et en accusant les juifs d'être à la racine et à la cause de tous leurs maux. Lorsque, au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale en tout cas, la question d'un foyer national juif était en l'air, la France a tenté de s'y opposer. Et elle a fait par l'intermédiaire des missionnaires catholiques qui étaient justement dans les pays arabes, et notamment les jésuites. Les jésuites ont été en première ligne dans ce combat. Et on peut dire que ce sont les missionnaires français catholiques qui ont créé les racines de l'antisionisme auquel nous assistons aujourd'hui. Et alors, le Vatican avait un projet mirifique qui consistait à rétablir le califat. Vous savez que le califat a disparu après la Première Guerre mondiale, même avant, au moment de la révolution des jeunes Turcs, où la Turquie est devenue un État laïque. Et le Vatican a vu ça d'un très mauvais œil. Et il a rêvé d'un rétablissement du califat, et c'est encore sa politique jusqu'à aujourd'hui, qui serait une sorte de Vatican arabe, et avec lequel on pourrait s'entendre pour en quelque sorte gouverner le monde. Bon, là aussi, le Vatican se trompe complètement, mais c'est toujours sa pensée. On l'a vu quand on est allé nous au Vatican, et on s'est rendu compte que cette politique n'avait pas changé d'iota. Dans sa lutte séculaire contre Israël, l'Église catholique a tenté de récupérer la judéophobie arabe pour la retourner justement contre l'État d'Israël. Et pendant du mandat, alors là, on a assisté à de véritables génocides. Bon, d'abord, vous savez, le génocide des Arméniens, 1911. au moins 1 million d'Arméniens ont été tués. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit. Et vous savez que quand la France a reconnu officiellement le génocide des Arméniens, la Turquie a rompu les relations avec lui et a annulé des contrats d'armement, notamment, qui avaient été conclus avec la France. Il y a des pans entiers de l'histoire qu'il faut cacher. Et le massacre des Arméniens a été le prototype du génocide d'Hitler, car Hitler a constaté que l'Occident n'avait pas levé le petit doigt pour intervenir en faveur des Arméniens, qui pourtant étaient des chrétiens. Et il s'est dit, si l'Occident n'est pas intervenu en faveur des chrétiens, il n'interviendra à plus forte raison pas contre les juifs. Donc, la Shoah des juifs est sans risque. Et il avait bien calculé parce que ce fut le cas. Ce fut le cas. Mais sous l'impulsion de ce qui s'était passé au Liban, d'autres minorités arabes au Moyen-Orient, entre les deux guerres, ont cherché à créer des États indépendants ou en tout cas des régions autonomes. Et ce, d'autant justement que tout le Moyen-Orient était passé sous la domination des puissances occidentales. Elles étaient des protectorats. Et l'avenir de ces pays était donc ouvert. Et les minorités chrétiennes, qui en avaient assez de vivre en dhimmie depuis des siècles, ont pensé que le temps était venu pour elles de s'affranchir de la dhimmitude, à l'exemple du Liban, à l'exemple du foyer national juif qui commençait à naître aussi en Palestine mandataire, et à l'exemple des pays des Balkans, de la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, qui s'étaient donc révoltés. Et donc, dans cette période-là, il y a eu donc des tentatives de créer des États, ou en tout cas des régions autonomes. Et alors là, justement, les pouvoirs occidentaux, les puissances coloniales qui s'étaient partagées le Moyen-Orient, ont absolument refusé cette libération des dhimmis. Et ils se sont laissés prendre à la dialectique arabe, comme quoi le véritable islam, ce qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs, est un islam tolérant, que l'islam allait maintenant évoluer et qu'il valait mieux que les chrétiens continuent à vivre au milieu des Arabes, comme ils l'avaient fait pendant des siècles. D'ailleurs, ils n'avaient pas été si malheureux que ça, du moins à ce que pensaient justement ces Occidentaux. Et ils le pensaient d'autant plus que les chrétiens eux-mêmes du Moyen-Orient ne disaient pas trop ni trop fort ce qu'ils avaient souffert. Et finalement, la tolérance arabe ferait qu'on allait se trouver dans un Moyen-Orient absolument idyllique, un véritable paradis terrestre, sous la direction justement des puissances islamiques qui allaient être menées au pouvoir par les différents protectorats qui s'étaient établis après la Première Guerre mondiale. Et c'est ainsi que les Nestoriens et les Chaldéens, qui vivaient dans le nord de l'Irak, frontière avec l'Iran, ont essayé d'obtenir des Anglais un État indépendant. Et notamment, aussi, c'était le cas des Assyriens, Londres, en 1921, a refusé de reconnaître un État aux Assyriens. Résultat, 500 000 massacrés, dans la plus grande indifférence de Londres, n'est-ce pas ? Sans parler de ceux qui se sont enfuis, qui sont morts de faim et de soif dans le désert. Dans les considérations qui étaient celles des puissances occidentales coloniales, les considérations nationalistes des Arabes avaient plus de poids que celui des minorités chrétiennes. Par conséquent, il fallait sacrifier les minorités chrétiennes aux ambitions des Arabes. Et ils pensaient que les chrétiens y trouveraient paix et prospérité, comme, pensaient-ils, ce fut le cas tout au long des siècles. Entre 1915 et 1921, entre 1 et 2 millions de chrétiens ont été exterminés au Moyen-Orient, dans la plus grande indifférence des pays occidentaux. Alors l'islam est tolérant, bien sûr. Hein. L'islam est pacifique, l'islam est tout à fait ouvert, etc. Bon. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont pris le relais. Et le rêve des États-Unis a été le même que celui des Franco-Britanniques après la Première Guerre mondiale, à savoir l'idée d'un grand État arabe pluriethnique, à l'image un petit peu du Liban, hein, où chrétiens et musulmans habiteraient dans l'harmonie et dans la reconnaissance mutuelle. Bon, s'imaginant que la démocratie était possible dans ces pays qu'ils n'avaient jamais connus, et pour lesquels d'ailleurs la démocratie est une abomination, puisque, encore une fois, la démocratie, c'est reconnaître aux minorités des droits. Mais c'est contre la doctrine du Coran. Encore une fois, le non-musulman n'a aucun droit Donc la démocratie est une abomination. Et parler d'État démocratique au Moyen-Orient, c'est se leurrer. Il n'y aura jamais d'État démocratique au Moyen-Orient, aussi longtemps que l'islam régnera, aussi longtemps que l'islam n'aura pas été détruit. Parce que la démocratie est contraire à la doctrine et à la théologie de l'islam, tout simplement. Alors, pour atteindre cet état idéal de démocratie, on était prêt à sacrifier les minorités, ce qui a été le cas. Maintenant, les églises de Palestine, comme disent le brave Clermont, et notamment ces deux églises de Jérusalem, sont les plus antisémites et les plus zélés pour la cause arabe. Parce que justement, ils pensent qu'ainsi, en renchérissant, ils vont pouvoir se faire bien voir de leur bourreau, sans se rendre compte que c'est souvent exactement l'inverse qui se passe d'ailleurs. Alors donc, il y a cette idée qu'on retrouve en Occident, dont on parlait tout à l'heure, que les Arabes ont été à la base de toute la civilisation mondiale, mais que par contre, les Juifs en ont été les destructeurs. Ça, il ne faut pas oublier que c'est le corollaire. Et aujourd'hui, s'il y a cette haine de la Bible et des racines chrétiennes de notre civilisation, au point que même Jospin ne veut pas que le passé religieux de l'Europe soit mentionné dans le préambule de la charte européenne, c'est pas ? C'est à cause de cela. C'est dans cette idée, c'est pas cette haine de ses racines, cette haine de la Bible qui vient de ce que la Bible est un livre juif. C'est pas ? Et par conséquent, tout ce qui est juif est destructeur. C'est la pensée d'Hitler. Hein. Vous savez, on n'a rien appris depuis 60 ans. Depuis Hitler, on se retrouve exactement au même point. Alors, le but des Anglais, en sacrifiant les minorités juifs et chrétiens aux Arabes, aux appétits des Arabes, était de désamorcer l'hostilité des Arabes à leur endroit. Hostilité qui ne cessait de grandir au fur et à mesure que le temps passait, malgré tous les gestes de bonne volonté que multipliaient les Anglais vis-à-vis des Arabes. Et l'idée que le nationalisme arabe était un facteur de paix au Moyen-Orient a été un dogme jusqu'à il y a peu, et l'est encore jusqu'à un certain point, un dogme totalement mythique, parce que justement les faits ont montré que c'était exactement l'inverse. Seulement le propre des hommes politiques, c'est que beaucoup d'hommes d'ailleurs tout court, mais spécialement des hommes politiques, c'est qu'ils ne sont pas capables de reconnaître leurs erreurs. Ce serait trop humiliant de reconnaître que l'on s'est trompé, alors même si l'on s'est trompé, on continue. On continue dans la mauvaise voie, une voie que l'on sait pertinemment mauvaise, mais on continue quand même. Comme vous savez, quand le centurion d'Astérix se fait arracher les arbres là, pour construire le domaine des dieux et que les arbres poussent la nuit suivante, eh bien, il ne s'arrêtera pas, il continuera quand même, même si ça ne sert à rien, le travail ne sert à rien, parce que ce serait perdre la face, quoi, ce serait se déjuger. Eh bien, c'est ça, les hommes politiques, c'est comme ça. Par contre, les Coptes ont toujours refusé ce nationalisme, d'abord, et eux ne sont pas entrés dans la dialectique nassérienne pendant le temps du nationalisme égyptien, mais au contraire, ils se considèrent comme les véritables Égyptiens et ne se considèrent en rien comme des dhimmis. Les Coptes ont toujours résisté et résistent encore plus que jamais de notre temps. Entre les deux guerres, donc, nous avons vu, les Assyriens ont été sacrifiés par Londres aux Arabes et les massacres, les génocides qui ont eu lieu pendant cette période ont terrorisé pour des dizaines d'années tous les non-musulmans au Moyen-Orient. Là, ils ont compris que, finalement, il n'était pas question de se révolter, et, d'autant qu'ils ont été trahis et abandonnés par les Occidentaux. Ça, c'est une certitude. Et alors donc, les dhimmis, les chrétiens dhimmis, ont favorisé le nationalisme et la laïcité, la sécularisation occidentale. Et se sont dit, si nous arrivons en quelque sorte à désislamiser les pays arabes en faisant pénétrer en leur sein la culture européenne, séculariste, séculière, n'est-ce pas ? Alors, ipso facto, nous, les chrétiens, nous trouverons l'égalité des droits. Nous aurons l'égalité des droits. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de cette période, ayant été trahis, ayant été abandonnés par l'Occident, les chrétiens d'Orient se sont rapprochés des musulmans. En 1936, lors de ce qu'on appelle la révolte arabe en Israël, il ne faut pas oublier que les musulmans s'en sont pris aussi aux chrétiens de Palestine. Ça, on ne le dit pas. Et on le dit d'autant moins, justement, que ce n'est pas politiquement correct. Et donc, dans la période des deux guerres, entre les deux guerres, il y a eu trois réactions, à cette évolution. Premièrement, ceux qui ont recherché un État indépendant ou autonome, ça a été le cas des Assyriens. Ceux qui ont recherché la sécularisation, ça a été le cas en Égypte et en Syrie, et en Irak, à partir d'un chrétien qui s'appelait Michel Al-Flak et qui a créé un parti qu'on appelle le parti Baas, lequel est au pouvoir actuellement en Syrie et en Irak, justement, et qui au départ était un parti laïque, dans lequel chrétiens et musulmans étaient à égalité et luttaient contre les Occidentaux. Seulement, il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'avec le temps, ce parti Baas s'est islamisé. Michel Al-Flak lui-même a fini par se convertir à l'islam. Et par conséquent, on se retrouve au point zéro. Bon, des gens comme Aman Ashrawi ou d'autres chrétiens de Palestine continuent à caresser ce rêve, d'autant que Arafat le laisse supposer quand il parle d'une Palestine démocratique, laïque et ouverte à tous, où chrétiens, juifs et musulmans vivraient dans l'harmonie, dans la symbiose, n'est-ce pas ? Bon, on sait ce qu'il faut en attendre. Et puis alors, il y a eu ensuite une troisième solution, ça a été le mandat au Liban. Or, justement, ce qu'il faut constater, c'est que toutes ces trois solutions, l'autonomie, la sécularisation et le protectorat, le mandat, ont été rejetées par l'islam. L'islam ne voulait pas. L'islam voulait revenir au statut de la dhimmitude. Or, justement, ce qui est dramatique, c'est que la défense de l'islam est devenue pour le Vatican une arme pour empêcher la restauration d'un État juif. Le Vatican ne pouvait pas s'accommoder et ne peut toujours pas s'accommoder finalement d'un État juif. Et l'idée d'un État juif est inacceptable pour la doctrine catholique et pour aussi toute une partie de la doctrine protestante comme on le voit aujourd'hui. Alors, l'idée c'est qu'il peut y avoir des juifs en Israël, mais à condition qu'ils n'en soient pas les maîtres. Une petite anecdote pour illustrer ce propos. Il y a des années de cela, je parlais avec le journaliste David Katarivas, qui du temps où il était attaché culturel à l'ambassade de France à Paris, avait essayé de promouvoir les pèlerinages catholiques en Israël. Et il avait rencontré le nonce apostolique, et il avait dit « Mais comment se fait-il que vous n'encouragez pas justement davantage les pèlerinages en Israël ?» Alors, il dit « Parce que vous êtes là-bas. » Répondu le nonce, carrément. Il dit, mais enfin, vous savez bien qu'on vous fait pas on vous garantit une totale liberté. D'ailleurs, nous, ce qu'on souhaiterait, notre intérêt, nous, juifs, c'est même que le pèlerinage au lieu saint soit obligatoire pour tout catholique. Vous comprenez bien, c'est notre intérêt. Oui, a répondu le nonce apostolique, mais nous ne voulons pas tenir ce droit de vous. Voilà, c'était clair. C'était clair. Donc, les juifs pour les catholiques peuvent être en Israël, mais à condition de ne pas être là-bas comme les maîtres. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, le pays est au christianisme et à son fondateur. Et le Vatican, quand il continue à réclamer à corps et à cri l'internationalisation de Jérusalem, montre tout simplement qu'il n'a pas renoncé au rêve des croisades, à la reconquête de Jérusalem, ville sainte du christianisme, pour le compte justement du Vatican. Or, le Vatican a entraîné dans son sillage les pays catholiques, avec l'idée justement que les lieux saints appartenaient au christianisme, véritable Israël. Et déjà à cette époque, entre les deux guerres, le Vatican faisait courir le bruit que le sionisme était une forme de nazisme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'était aussi, pour une autre raison, pour l'Église catholique, l'antisionisme permettait aussi de détourner la haine du monde arabe de l'Église catholique contre le peuple juif. C'était une manière aussi de soulager, en quelque sorte, pensait-il un peu, les chrétiens d'Orient. Et c'est ainsi que le Vatican, pendant les deux guerres, est devenu le principal allié des musulmans. Il y a eu donc une véritable alliance euro-arabe qui se poursuit jusqu'à nos jours pour éliminer les juifs d'Israël, considérés comme les ennemis traditionnels à la fois de l'islam et du christianisme. Par contre, il y a des maronites jusqu'à aujourd'hui qui restent pro-sionistes. Et de nombreux coptes également. Pour vous montrer un exemple, pendant cette période entre les deux guerres, le Vatican a poussé à la dimension le patriarche pro-sioniste d'Antioche, justement parce qu'il était pro-sioniste. Voilà. Donc, si vous voulez, l'antisionisme, déjà, entre les deux guerres mondiales, devient un vaste mouvement international. Donc, il ne faut pas s'étonner de le voir ressurgir aujourd'hui, parce que les racines, les sapes qui ont été commencées, le travail de sape a été commencé patiemment, donc au début du siècle dernier, finalement, et on voit aujourd'hui porter les fruits délétères. Actuellement, les dernières résistances s'effondrent, et c'est pourquoi on assiste à cette explosion sans précédent, n'est-ce pas, d'antisionisme, et pour, disons le mot tout simplement, d'antisémitisme. Maintenant, certains chrétiens ont aussi pris le parti à fond des islamistes là-bas. Et par exemple, vous avez un certain nombre de chrétiens qui ont accompli des actes de terrorisme pour le compte des Arabes. C'était le cas, par exemple, d'un prélat qui s'appelait Hilarion Capucci, qui, en 1960 et quelques, après la guerre des Six Jours, a été pris transportant des explosifs dans sa voiture. Il a fait la prison en Israël, a été libéré, puis a été ensuite reçu une promotion quand il est sorti de prison au Vatican, etc. Bon, il y a eu d'autres qui ont agi de la même manière. Georges Abache est un chrétien syrien, Awad Meh pareil, n'est-ce pas, donc les chefs de groupuscules antiterroristes, souvent d'ailleurs encore plus extrémistes que ne le sont les groupes musulmans, parce que il faut toujours surenchérir, quoi, hein, pour se faire bien voir des Arabes. lorsque, en 1982, Béchir Djemayel a été assassiné par les Syriens, comme on le sait, c'est pas ? Sa mort a été accueillie avec soulagement par l'ensemble du monde occidental. Parce que la poursuite de son pouvoir aurait nui aux relations commerciales avec l'Occident. Ça montre où on en est. Et les Coptes, par contre, ne se sont jamais considérés comme arabes, alors que les chrétiens d'Orient se considèrent comme arabes. Ce sont des arabes chrétiens. Et ils vont jusqu'à dire que qui consiste justement à se rapprocher des musulmans et avec eux d'attaquer Israël, eh bien, sont des impasses. Pour une bonne et simple raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'ils le veuillent ou non, les chrétiens seront toujours dédimis au même titre que les juifs. Et l'idée actuellement qu'ils sont un peu moins méprisables que les juifs est aussi une idée de la propagande arabe, justement, pour... Ben parce qu'il faut d'abord combattre le samedi, on ne peut pas combattre et le samedi et le dimanche en même temps. Il faut d'abord en finir avec les juifs, mais après, quand on sera fini avec les juifs, on s'occupera des chrétiens. La vérité seule peut sauver les dîmes. Et actuellement, il faut savoir que les chrétiens d'Orient souffrent véritablement. Ils vivent dans un mensonge permanent. Ils vivent dans cet écartèlement et dans cette menace permanente. Mais ils souffrent véritablement. Et finalement, on pourrait reprendre la parole de l'Évangile en ce qui les concerne. La vérité vous rendra libre. Mais de cette vérité, ils ne veulent pas, pour une fois, ils ne veulent pas du seul remède qui pourrait les sauver. Alors, maintenant, autre point. Les chrétiens d'Orient et les Palestiniens ont diffusé dans l'Occident l'idée d'une culpabilité occidentale. Et ça, vous retrouvez ça à fond dans un texte de la Fédération protestante qui est sorti pas plus tard que cette semaine. Pas seulement de la Fédération protestante, mais du Conseil des Églises de France, qui dit que le Conseil des Églises de France, donc œcuménique, a accepté l'interpellation des chrétiens palestiniens et reconnaît sa culpabilité dans les souffrances des chrétiens palestiniens. Bon, voilà, là on est à fond dans la dimitisation des Églises d'Occident. Alors donc il y a cette idée dans la théologie palestinienne que j'évoquais tout à l'heure, que l'islam a confié une mission à la chrétienté. C'est l'idée d'une charité, mode de vie, et que les chrétiens doivent servir les musulmans sans rien attendre en retour, d'une manière totalement désintéressée. Que remplacer les valeurs religieuses et spirituelles de la chrétienté traditionnelle par ce qui concerne Israël est une profanation de l'Évangile. Que l'occupation de Jérusalem par les Israéliens est un acte abominable, un acte de culpabilité, comme tout ce que font les Israéliens. Tout ce que font les Israéliens est entaché d'une culpabilité abominable parce qu'ils ont osé se révolter contre l'islam. Voilà. Alors, par exemple, après les attentats du 11 septembre, c'était typique, n'est-ce pas, réjouissance effrénée dans tous les pays arabes, tout sans exception, ça on ne l'a pas dit. Et puis quand Bush a a tapé sur la table en disant que qui n'était pas produit était contre lui. Ces messieurs sont passés sous la table. Et là, on a entendu des merveilleuses mises au point disant que les Arabes n'étaient pour rien, évidemment, dans cette histoire du World Trade Center. On y soit qui mal y pense, mais que c'était les Israéliens eux-mêmes qui avaient mis au point cet acte d'attaque, n'est-ce pas, pour que ça se retourne justement contre les Arabes. Et à partir du moment où cet acte était attribué aux Israéliens, autant il était légitime, autant il était noble, autant il était beau, j'ai des extraits de la presse arabe à ce niveau-là, n'est-ce pas, autant il est devenu abominable à partir du moment où on a accusé les Israéliens d'en être les responsables. Et c'est pourquoi assassiner pour des Arabes des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants par des bombes suicides, ça, c'est rien. Mais par contre, que les Israéliens osent toucher même à des responsables de ces attentats et les tuer, n'est-ce pas ? C'est un acte abominable, c'est un acte de terrorisme. Pourquoi ? Parce que justement, encore une fois, le Dhimmi n'a pas le droit de se révolter contre son bourreau. Ça fait partie de la théologie arabe. Or, justement, ce qui est dramatique, c'est qu'un certain christianisme aujourd'hui en Occident s'islamise et favorise la déchristianisation de notre pays. Il y a de nombreux chrétiens d'Orient, pour quand même nuancer un peu mon propos, qui résistent à l'islamisation qui est imposée par leur clergé. C'est toujours les clercs qui sont les plus coupables dans ces affaires-là. Or, les chrétiens occidentaux, qui ont rejoint la cause arabe, la cause palestinienne en particulier, eh bien, ont délégitimisé Israël en faisant, comme je disais tout à l'heure, les chrétiens occidentaux et orientaux aussi d'ailleurs, en faisant du peuple palestinien le nouveau peuple promis, le nouveau peuple élu. Ils étaient les seuls à pouvoir faire ce travail théologique parce que seuls ils connaissaient la Bible. Et il est certain que Koury ou Attik étaient des chrétiens qui connaissaient bien la Bible, et par la médiation chrétienne, l'histoire d'Israël a été transférée aux Arabes. La terre d'Israël a été transférée aux Arabes. Et vous remarquerez, preuve entre autres de cette islamisation de notre société, que vous n'entendrez jamais parler à la radio de l'esplanade du Temple, mais de l'esplanade des mosquées. Les mots ne sont pas innocents. Ce sont les chrétiens qui ont élaboré, occidentaux et orientaux, qui ont élaboré la politique révisionniste qui aujourd'hui séduit l'opinion mondiale dans son ensemble. Et l'idée d'une nation arabe est une nation française, est une notion française, jésuite. Ce sont les jésuites qui ont contribué à créer le Hamas et l'OLP. Alors ça, Madame Littmann cite des sources, vous comprenez un petit peu que pourquoi son livre n'a peut-être pas été accueilli avec un enthousiasme délirant par les catholiques américains. Il y a aussi, évidemment, toutes sortes d'islamisants occidentaux, pas forcément religieux d'ailleurs, mais qui ont été séduits par l'islam. C'est le cas, par exemple, de Massignon, entre les deux guerres, qui a été un des premiers traducteurs du Coran en français, et qui disait qu'il était d'origine catholique, et qui disait qu'il fallait lire la Bible à la lumière du Coran. Donc, les chrétiens deviennent de plus en plus dépendants, y compris en Occident, de l'ordre islamique, lequel l'islam est associé aux pauvres, aux tiers-mondistes, alors que les Arabes d'Arabie Saoudite, pour ne parler que d'eux, ont le niveau de vie le plus élevé du monde. Bon, enfin, ce sont les pauvres, les laissés pour compte. Les églises orientales, le clergé oriental, a toujours vu dans la dhimmitude le moyen de conserver un pouvoir sur ses ouailles. Et le clergé, le clergé d'Orient, est un des pires dans ce domaine-là. Ils ont réussi à convaincre les musulmans qu'on peut utiliser des idées occidentales qui sont sacrilèges pour l'islam, telles que la démocratie, par exemple, mais pour délégitimiser l'Occident. Et dans les pays occidentaux, les musulmans réclament à corps et à cri le respect des droits de l'homme, la démocratie, le droit de construire des mosquées, etc., etc. Toutes choses qu'ils récusent pour les autres, mais ils retournent les faiblesses de l'Occident contre lui-même. Pour vous donner un exemple, les églises de Jérusalem ont refusé l'aide du gouvernement israélien pour réparer leurs églises. Vous savez que les Dhimmi n'ont pas le droit de réparer leurs églises. Elles ont répondu que cette proposition israélienne de prendre en charge les frais, n'est-ce pas, de réparation de leurs églises, dont certaines étaient effectivement dans des situations très, très vétustes, n'est-ce pas, était une provocation. Et finalement, que c'était aussi avec les églises d'Occident qu'il y avait ce complot qui faisait que si les 10 000 avaient accepté cela, ils se seraient mis à dos leur maître musulman, quoi. Comme le 10 000 n'a pas le droit de reconstruire ou même de réparer ses églises, ils ont préféré refuser l'aide israélienne. Or, justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette alliance contre nature islamo-chrétienne est en train de se retourner contre les chrétiens qui l'ont créée. Et ça, beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte. Alors, quelles sont les techniques employées pour atteindre ces buts? Le premier, c'est le silence, la conspiration du silence. Silence, on massacre. Silence, on torture. On n'a pas le droit de parler. Et les églises d'Orient attribuent à Israël le fanatisme arabe, notamment, par exemple, qui conduit à l'exode de masse. Il est vrai qu'il y a depuis des dizaines d'années maintenant un exode de masse des chrétiens arabes, de tous les pays dans lesquels ils habitent. Et vous entendez partout, vous lisez partout, que cet exode est le résultat justement de la situation intenable de ces malheureux chrétiens sous la domination d'Israël. Bon, or, toute une partie de ces territoires ont été rendus aux Arabes, et l'exode continue quand même. Alors, on voudrait bien comprendre pourquoi. Dernièrement, on sait qu'à Bethléem, les tireurs du Tenzin prenaient position pour installer leurs armes contre Israël exprès dans des maisons habitées par les chrétiens ou dans des églises, dans le but d'attirer le feu israélien contre ces gens et ainsi de faire en sorte que l'Occident accuse Israël de massacrer les chrétiens. Quand Israël n'est pas tombé dans le panneau, alors les musulmans y ont eux-mêmes contribué, puisque, par exemple, on cite le cas dernièrement, ça a été rapporté dans la presse israélienne, mais dans la presse israélienne seulement, que plusieurs jeunes filles arabes, au moment de Noël, ont été violées par des Arabes et ensuite massacrées. Bon, cette fois-ci, les Arabes n'ont pas réussi à faire porter le chapeau aux Juifs, et les parents de ces malheureuses jeunes filles ont réussi à alerter l'Occident, à leurs risques et périls, bien entendu. Donc, les églises orientales ont volontairement choisi l'antisionisme et l'alliance avec l'islam. Et elles tentent aujourd'hui de gagner à cette alliance l'ensemble du monde chrétien. Voilà justement un des enjeux décisifs de notre temps, de la fin du siècle et de début de ce siècle. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un veut me prêter le pied à la Bible? Bien, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Tiens. Y a des questions là-dessus? On vit un temps extrêmement préoccupant. Là, c'est très préoccupant. Donc on voit la fédération protestante basculer à fond dans cette idéologie-là. On a de quoi trembler. Hein. Vraiment trembler.
Et comment ça se fait qu'on se laisse séduire, globalement, enfin, les églises d'Occident, se laissent séduire parce que, tout en sachant que la réalité, il y aurait une ignorance.
Bon, il y a l'ignorance aussi. Il y a l'ignorance.
Mais que ce soit entretenu, on sait que c'est un piège, on sait que c'est une menace. Oui. Non seulement pour Israël, mais même pour les églises et pour les chrétiens.
Tout à fait.
Et on y va gaiement.
On y va gaiement. Bon, à mon avis, il y a trois raisons à ça. La première, c'est ce que je disais à la journaliste qui m'a interviewé, la première, c'est la déperdition de la foi. On ne croit plus à la Bible, donc on ne se réfère plus à elle. La Bible n'est plus normative, la Bible ne fait plus autorité. Donc on cherche des sources d'autorité ailleurs. Or, comme l'islam se présente au contraire avec une parfaite bonne conscience, c'est tout à fait le contraire de l'Occident, qui est rongé, miné par la mauvaise conscience. L'islam a une parfaite bonne conscience, même lorsqu'il commet les pires abominations. Sait-on, par exemple, que le cousin d'Arafat, Adjamil El-Husseini, ci-devant mufti de Jérusalem pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait été enthousiasmé des chambres à gaz que son ami Hitler lui avait fait visiter et qu'il en avait fabriqué dans la vallée d'Israël pour le jour où Rommel étant arrivé, il pourrait éliminer les Juifs. Voilà. Bon, après ça, on dit que ce sont les Israéliens qui préparent une Shoah des Palestiniens. Alors, donc, déperdition de la foi. Ça, je crois que ça, c'est le... Et alors, donc, devant l'assurance des Arabes, alors que justement, on n'est plus assuré de rien, on ne sait plus ce qu'on croit en Occident, les Arabes savent ce qu'ils croient. Et ils le disent haut et fort. Et par conséquent, bah, des gens qui ont perdu tous les points de repère, eh bien, sont impressionnés. Ça, c'est le premier point. Déperdition de la foi, à mon avis, c'est l'essentiel. Par exemple, ça ne se serait jamais produit, ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les chrétiens protestants, notamment, sont venus en aide aux juifs parce qu'ils étaient nourris, pétris de la Bible. Je ne suis pas du tout certain qu'aujourd'hui, s'il y a, à Dieu ne plaise, il y avait une situation de ce type-là, on trouverait encore une mobilisation du peuple protestant aux côtés des juifs, comme il y en avait eu à cette époque-là. Bon. Deuxième point, eh bien, la plupart de ces chrétiens et la plupart de ces clercs, Clermont et autres, n'est-ce pas, regardent la télévision. Et par conséquent, sont sensibles à la propagande, arabe. Et vous savez ce que disait Goebbels, n'est-ce pas ? Ce qui est un mensonge mille fois répété finit par devenir une vérité. Bon, et tu me disais tout à l'heure, quand même dans les écoles, maintenant, vous avez, les programmes ont été révisés. Alors, absolument de manière totalement aberrante par rapport justement à la vérité historique, n'est-ce pas ? Ce qu'on a lu tout à l'heure, l'islam est à la base de la civilisation occidentale. Bon. C'est à mourir de rire. Bon, mais voilà quoi. Hein. Et or, comme disait Jacques Ellul, et je l'ai cité ça à la journaliste, et j'espère qu'elle le répercutera dans son article, ça ferait du bien clairement. Jacques Ellul disait que les plus sensibles à la propagande étaient les intellectuels, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et parmi les intellectuels, les plus sensibles, les plus ouverts à la propagande étaient les clercs, les ecclésiastiques. Alors voilà, nous en avons la démonstration ici. La démonstration, ces gens-là sont... Alors, donc il y a ce travail de sape dont on a parlé, qui dure depuis des dizaines d'années maintenant, hein, depuis l'entre-deux-guerres, depuis les jésuites, qui maintenant a emporté toutes les barrières. Il a emporté, bon, au niveau du peuple, au niveau des pouvoirs politiques, par exemple, il y a le premier ministre tchèque qui a visité Israël et Jérusalem la semaine dernière, et qui a dit ce que Jospin avait dit en son temps, à savoir qu'il conseillait à Israël surtout de ne pas tomber dans le piège de Munich, dans lequel ils étaient tombés, eux, les Tchèques, en 1938, hein, et de considérer que Arafat et ses sbires étaient des terroristes. Alors, concert, n'est-ce pas, de protestation dans le monde entier. Le président de la République tchèque a rappelé son premier ministre à l'ordre. On ne dit pas des choses comme ça. Enfin, quoi ? C'est politiquement incorrect. Donc, il y a une conspiration du silence. Il y a une conspiration du silence pour taire la vérité. Et derrière, il y a aussi, évidemment, il y a les politiques, mais il y a aussi l'économie, les pétrodollars et tout ça. Donc, il ne faut pas mécontenter ces gens-là, parce que si nous coupaient le robinet du pétrole, qu'est-ce qu'on ferait ? Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, alors justement, c'est celui que j'évoquais ce soir, c'est l'influence des églises orientales. Et les Clermont et choses comme ça, qui a fait une œuvre magnifique quand il est allé là-bas, j'avais envie de dire ça à la journaliste, mais je n'ai pas eu le temps de lui placer, quand il est allé faire une enquête, bon, il y a quelques mois avec le président de la commission épiscopale catholique et puis Mgr Jérémy orthodoxe. Eh bien, ils ont rencontré donc les gens de l'extrême gauche israélienne, Yossi Beilin, même pas Peres. Peres n'était pas persona grata pour eux, mais Yossi Beilin, enfin l'extrême gauche israélienne, donc les pacifistes Bélan, hein, et puis après évidemment Arafat et tous ses consorts, quoi. Mais même pas rencontré des gens de l'entourage de Sharon, même pas rencontré des gens d'autres tendances du peuple d'Israël. Non, c'était ça. Alors, quand on fait du journalisme, la première chose qu'on apprend, c'est justement de faire un travail objectif. Une enquête doit toujours être objective. Et une enquête doit prendre en compte les deux parties. Il faut écouter les deux parties avant de faire une opinion. Moi, c'est ce que mon cher m'a toujours appris. Hein. Bon, et voilà. Et eux, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont fait un mauvais travail. Ils ne sont allés voir que les gens qui étaient de leur bord, qui avaient les idées qui sont les leurs. Ils ont soigneusement évité ceux qui n'avaient pas les leurs. Hein. Alors bon... automatiquement, bah, ils se sont laissés séduire par les mensonges de ces gens-là, qui, avec beaucoup de conviction, vous comprenez, eux, ils connaissent leur situation, ils connaissent la situation, nous ne connaissons pas. Moi-même, Jean-Marc Taubois, qui vais depuis 40 ans en Israël cette année, ce sera 40 ans que j'ai visité Israël pour la première fois l'été, hein, mais je ne peux pas me rendre compte, vous comprenez, je ne peux pas me rendre compte. Il y a que 40 ans que je vais là-bas et je ne vis pas sur place. J'ai vécu sur place, mais enfin, je ne peux pas me rendre compte, tandis que les gens qui sont sur place, eux qui sont là-bas, eh bien, ils vont nous dire combien méchants sont les Israéliens, etc. Alors, entre le témoignage de ces gens-là, qui jurent, n'est-ce pas, selon le vieux serment catholique d'autrefois, croix de feu, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, hein, parce qu'ils vivent dans un mensonge permanent, eh bien, ils avalent ça comme du pain béni, c'est tout. Hein. Et là, les églises orientales sont en train de faire une œuvre de destruction terrible, hein, comme cite Madame Littmann dans son bouquin, en Noël 2000, à Strasbourg, capitale de l'Europe, il y avait, à côté de la cathédrale, un village palestinien qui avait été reconstitué, où on voyait Jésus, Marie, la crèche, enfin, tout l'image épinalesque, évidemment, avec tout ce beau monde-là, en costume d'arabe moderne, avec la djellaba et puis le kéfié, etc., alors que le kéfié n'a été introduit qu'au XIXe siècle, n'est-ce pas, avant, quand justement les Arabes sont venus du désert, parce qu'avant c'était le truc, vous savez, conique, là, qu'ils avaient le truc turc, quoi, qu'ils avaient. Bon, et voilà, on représente ces Jésus arabe palestinien de cette manière-là, quoi, de cette manière-là. Alors, c'est une palestinisation de ça, d'autant que justement l'Occident voit aussi dans cette évolution l'occasion d'éliminer Israël. Et l'Occident ne s'est jamais réconcilié, le christianisme ne s'est jamais réconcilié avec l'existence d'Israël. Or, justement, on n'a pas réussi à l'éliminer, c'est ce que j'écris à Richard Darmon aujourd'hui, on n'a pas réussi à l'éliminer par l'Inquisition, par la Shoah, etc. Mais peut-être que maintenant, on va avoir un peuple qui va pouvoir faire ça, un nouveau peuple élu, le nouveau peuple qui est le peuple messianique, le peuple christique, hein, le peuple palestinien, c'est ça. Hein, si vous lisez Attic ou si vous lisez El Khoury, c'est exactement ça. Hein, le peuple palestinien est un peuple christique, et donc persécuté, martyrisé, qui porte sur lui tous les péchés du monde, etc., etc., trahi qu'il est par l'Occident, comme le dessin de Nono dont tu parlais l'autre jour, là, même l'ONU, qui n'arrête pas de voter pourtant des résolutions en sa faveur, les a oubliés, etc., etc. Alors il y a une victimisation du peuple palestinien, il y a une victimisation qui va dans le sens aussi de cette espèce d'idéologie tiers-mondiste et misérabiliste qui marque la pensée occidentale et la mauvaise conscience de l'Occident, hein. Alors tout ça, ça joue et ça fait qu'on est en train de couler. Et puis il y a aussi un dernier point, je dirais, c'est qu'on a perdu le goût de vivre, on a perdu le goût de se défendre. Pour pouvoir résister à ça, il faudrait se dresser, il faudrait faire front. Mais on n'a aucune raison, on n'a aucune motivation spirituelle, comme on a perdu toute motivation spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on irait se battre contre un islam sûr de lui, qui est la meilleure des communautés selon ce que dit le Coran, donc tout ce qu'il fait est bien, hein? Pourquoi est-ce qu'on irait prendre des risques? Pourquoi est-ce qu'on irait... Voilà, tu comprends? C'est ça, il y a tout ça. Ah oui, on est mal parti, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein. Très mal parti.
Et en 82, vous pensez que les cartes ont pu être distribuées pour les églises orientales par les maronites?
Mais bien sûr, les maronites étaient pro-israéliens. Ah oui, bien sûr. Parce que justement, la mouvance de Béchir Temayel et donc des maronites qui étaient dans son optique, c'était que justement l'État binational qui était issu du pacte national de 1942, avait fait long feu. Il n'était plus possible de le remettre en piste. Et que la seule solution, c'était la solution d'Israël, c'est-à-dire un État maronite. Et Gemayel voulait créer un État maronite. Enfin, oui. Mais le Vatican n'en voulait pas. Le Vatican a sommé Gemayel d'arrêter. Et Gemayel a eu un mot très dur pour le pape. Il a dit « Il ne faut pas que le pape s'imagine que les chrétiens maronites seront un matériel d'expérimentation pour le Vatican. » Eh bien, ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté la vie. Voilà, les Arabes tuent. Et c'est ça, justement, ils effraient. Alors, pourquoi Clermont va-t-il aller se dresser contre les Arabes? Il risque d'être tué. Voilà. Et c'est pourquoi il n'y a plus de résistance. On est un peuple décadent, un peuple qui a perdu le goût de vivre. Mangeons, buvons, forniquons, télévisons, etc. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose. Encore un instant de vie, monsieur le bourreau arabe, laissez-nous encore jouir un peu de nos trucs, et avant de nous imposer à nos femmes le boukhara, là, c'est le boukhara, ça s'appelle ce truc-là, enfin le truc, là, etc., et puis de mettre de l'ordre un peu dans cette... Voilà, c'est ça. On en est là. Bien, autre chose ? Bien, on va rester là pour ce soir alors.